Radio.
C'est la radio, mais avec l'accent.
La radio, mais avec l'accent.
C'est toi qui paye les heures du studio. Hein.
Bonjour à toutes et tous. Vous écoutez la radio et il est 18h10. Il fait beau, il fait chaud. Nous sommes au Phare, le Festival des Arts Vivants à Nyon, dans le magnifique jardin du conservatoire au bord du lac. Si vous nous écoutez, c'est que vous avez fait l'excellent choix d'être sur la radio, l'unique, la fameuse, l'indépendante radio nyonnaise qui couvre tous les grands et petits événements de la ville à renommée culturelle mondiale qu'est Nyon. Je suis accompagnée aujourd'hui de Marlo, autre chroniqueur chez nous, de Mélissa et d'Antoine, notre technicien de toujours. En face de nous, suspense. D'innombrables visages que vous allez découvrir, mais surtout entendre ces deux prochaines heures d'émission. En ces temps particuliers, la radio a parfois rendu possible, à distance, de donner voix à quelques créations artistiques, à quelques instants philosophiques, à quelques chroniques politiques également parfois. Mais aujourd'hui, nous avons le bonheur de prêter nos ondes au Phare pour participer à l'un de ces projets de l'édition 2021.
D'ici quelques minutes va débuter l'émission « Territoire fantôme et gestes paysages » réalisée par le collectif Compost à la suite d'une longue conversation que les artistes ont menée à distance avec des habitantes et habitants de Nyon. Le collectif a ainsi rencontré moins un territoire qu'un paysage nyonnais, moins une carte physique de la ville qu'une cartographie sensible, affective, composée par les reliefs émotionnels que tel habitant ou tel habitant fait surgir en lien avec une place, un lieu d'action, un espace de rencontre qui, durant cette année, lui a manqué ou s'est enfin mis à compter. Cette cartographie sensible est visible pour les personnes présentes avec nous aujourd'hui au jardin sur le support en bois qui est ici. Et pour les auditeurs distants, vous la retrouverez en ligne sur le site du collectif. L'année passée, le territoire, comme on l'a toutes et tous vécu, s'est trouvé suspendu et passé en arrière-plan comme un fantôme environnant. Et ce sont les gestes d'attention renouvelés qui ont pu dessiner ce paysage sensible dont vous allez pouvoir entendre la polyphonie avant que la conversation se rouvre ici, au jardin du conservatoire, où nombre de ces conversantes et conversants sont réunis autour du compost de Laurie Bellanca, Camille Louis et Benjamin Chaval. Si vous êtes avec nous ici, vous avez tout un paysage à observer en même temps que vous écoutez la réalisation. Si vous êtes loin, vous êtes en réalité tout près, puisque vous vous trouvez au même point que ces artistes qui, durant des mois, n'ont pu qu'imaginer le lac, le jardin, les rues voisines. Vous pouvez donc rêver et fabuler avec les voix de toutes ces personnes. Bonne traversée.
Madame.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous aimez ?
On cherche Ephraim.
C'est moi.
C'est vous ?
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
En fait, on est deux artistes qui sommes au Festival du Phare.
Oui.
Et moi, je suis plus attachée à Nyon qu'à
beaucoup mon quartier. De Nyon à ouais. distance.
Donc,
et plusieurs personnes nous ont parlé
j'ai
de
j'ai commencé à venir à Nyon il y a très longtemps.
Parce qu'elles venaient déjà prendre leur café ici pendant le lockdown, parce qu'elles venaient acheter des cigarettes.
Oui, exactement.
Parce que c'était l'endroit où il y avait encore
de un peu de vie. Qui était en bas au bord du lac et qui était un lieu désaffecté, on peut faire un projet d'affiche.
Donc, si vous voulez, c'est une dimension de ville qui nous permet d'être un peu partout. C'est un peu un village.
Entre la gare et cette maison de quartier, c'est là où il y avait pas mal de maisons, c'est là où maintenant il y a de plus en plus d'immeubles qui se construisent. Donc, ça évolue rapidement.
En fait, ce café, il a vraiment pris une méga importance. À Nyon et puis dans la vie des gens où quand on était saisonnière il y avait chaque fois qu'on rouvrait au printemps c'était tellement chouette, c'était tellement les gens disaient ah vous êtes revenus, c'était un peu comme les hirondelles.
On est à la place du château, il a sorti sa guitare et c'était vraiment un contexte magnifique dans le sens que on avait la vue sur le bord du lac.
7/7 c'était ouvert à l'époque, ça fait 10 ans que ça a moi
sud, il y avait les Alpes. Mais malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de lumière, donc c'était une atmosphère.
Quelques soucis avec police
très chaleureuse, très.
Une chose que j'adore, c'est que quand on sort de l'autoroute, puis qu'on arrive aux portes d'Oignon, quand il fait beau, il y a le massif du Mont Blanc. Qui est comme dans une carte postale. Je ne sais pas si vous connaissez Ferdinand Hodler.
Le confinement, il nous a un peu fait ça.
Puis, ça nous a fait tout d'un coup un peu.
Mais vous êtes là, mais comment ça va?
Et voilà, vous êtes fan. Faire quelque chose pour cette ville.
Mais vous avez quand même gardé un petit bout du.
Oui, pour ce, sur, surtout pour Place des Châteaux, pour Place des Châteaux, les gens qui l'habitent ici,
c'est, pour faciliter les choses. C'est ce qui me fait dire que j'ai eu un choc.
Parce que si je viens ici, il n'y a pas de que
j'avais quitté un village où il y avait encore de la forêt presque au milieu de la ville, on jouait encore indiens fort au milieu de la ville. Enfin bon, j'ai encore des souvenirs d'enfance qui sont villages.
Toutes les choses qui sont nécessaires, les
feuilles. On ne peut pas se promener 10 mètres sans connaître quelqu'un.
Voilà.
Et le
autre monde, tout se passe bien.
Grandir, même pas moi, moi je vais.
Cette idée.
Mais moi je trouve toujours hyper positif parce que justement.
À l'époque.
Par quel moyen
un jour, si ça
j'en sais rien, je pense qu'il y en a plein de différents. Ils ont réussi, Lyon a réussi à garder vraiment
mais
cette
j'ai fait
identité
deux choses.
Et ce lien social
et, puis tout d'un coup,
et ce plaisir à être
six mois après,
ça m'a permis d'aller vraiment un bout plus loin dans la connaissance de,
parce que j'avais plein de souvenirs
chacune de ces personnes, parce que tout à coup, on est entré dans une forme d'intimité qui n'existait pas forcément ou pas de cette manière-là avant. Du coup, c'était un contact avec Lyon par personne interposée, indirect.
Et puis même ici, c'était tous, il y avait les étagères, il y avait les souvenirs. Mais vous voyez pas d'épi d'or dedans. Mais il y avait tout le monde chose. Et puis quand les vols, ils sont arrêtés, et puis j'étais obligé, voilà, on n'a pas reçu les tristes. Et puis j'ai resté 6 mois comme ça,
pour moi, c'est
rien
cet accès, cette ouverture. Et on est proche des villes.
Quelle année
de Genève, de Lausanne. Donc pour moi, ça me permet, Lyon me permet d'être ouvert sur le reste. Moi, j'aime pas rester enfermé dans vite, je me trouve enfermé. Donc, non, je vais pas me dire à rentrer dans mon quartier.
Postale, parce qu'il n'y avait pas de plus.
Ouais, je supporterai maintenant.
Et puis après, j'ai décidé, voilà,
qui s'appelle la fête interculturelle.
Je voulais changer.
Ce qui est particulier dans cette fête à Lyon, en fait, c'est qu'elle n'a pas été mise en place par la volonté de la municipalité ou d'un service, mais vraiment mise en place par un collectif. Donc au départ, c'était vraiment une fête qui avait lieu le 1er mai. Elle avait lieu ici même, c'était une toute petite fête, mise en place par le collectif des sans-papiers et l'autre syndicat, qui avait fédéré autour d'eux les communautés.
C'est marrant parce que c'est une question qu'on me pose souvent. On me dit, mais ça va, les trajets, c'est pas trop long.
Sylviane, bienvenue.
Et puis, on est
là
pour moi, c'est vraiment une petite capsule temporelle à moi.
Ici,
ça me fait un petit sas entre, entre le moment où j'ai été dans ce travail de roulotte, très intense.
Toujours, j'habitais à Lyon.
Collé à Lyon, il y a une localité qui s'appelle Prangin.
UFA.
Et puis, en fait, la voie de chemin de fer passe dans une espèce de boulet parce que ça a été creusé, donc en fait, de part et d'autre, il y a une espèce de. Il y a des monticules. C'est comme si on était. Le train est plus bas que les habitations de part et d'autre. Donc en fait, en tout premier, il y a une espèce de plaine agricole avec des espèces d'antennes, je ne sais pas très bien ce que c'est,
le monde est vaste, le ciel se transforme en lac et inversement. Les quartiers sont revus. Partout il y a des passages, sans cesse des petits groupes d'enfants, pas très sages, relient des points distincts qui font paysage. L'horizon naît ici, mais n'aboutit plus nulle part. Nous sommes dans l'ouvert, au devant comme au derrière. Regardez. Au bord de l'eau ou dans le sable du parc Pertan, à côté des voitures, des joueurs de pétanque et de quelques silhouettes improbables qui font de l'espace public leur seule maison, des petites filles et des petits garçons voudraient jouer tout le temps. Échanger des histoires nées à Lyon avec des fables venant d'Italie, de Grèce, de Tunisie ou de Turquie. Inventer des chansons avec des abeilles ou des grenouilles dont ils et elles font leurs compagnons et avec lesquels ils voudraient étendre le temps en forme de veillée restée inachevée. Ici, comme là-bas, les enfants ne veulent toujours pas aller se coucher. L'air de rien, entre leurs petites mains, ils portent les précieux grains des terrains résistants à l'impératif par lequel s'est forgé l'Occident. ce bout du monde qui tire son nom du coucher et du couchant et qui, de siècle en siècle et d'année en année, n'a cessé de penser le monde en le couchant, en le regardant depuis le point de vue surplombant du cartographe et en pointant sur lui les lumières de la raison et de son amour fou des délimitations, des frontières, des lignes trop claires, droites comme les barrières des berceaux d'enfants. En face de l'Occident se lève non pas l'immaculé Mont Blanc, mais l'esprit turbulent de l'Orient, où les turbulences des bouts de monde et de vie qui préfèrent, aux sages aplatissements, les reliefs des intensités affectives, les perturbations du familier, les chocs de l'étrangeté, les levées incongrues au milieu de la nuit, l'irrespect posé aux heures de travail, de repos, de coucher, le débordement des chemins tout tracés, les déplacements par voie de relation qu'ont ouvert depuis longtemps les enfants turbulents.
Avec des apparts pour fenêtres ouvertes sur la rue, où les gens se parlent même sans se connaître, avec des étages de couleurs, des escaliers de culture, des générations qui s'acceptent et qui ont cassé les murs avec les mots pour se rejoindre de l'autre côté. Ici on dit que le bonheur n'a raison d'être que partagé, alors on partage nos doutes, nos questions et nos fous rires. On tue la peur commune qui nous empêche de grandir. Je l'imagine avec une cuisine, des odeurs plein les couloirs, les gosses, les chants, les babines, un goût pour chaque histoire, une pincée de poésie dans nos assiettes et dans la tête. Si la folie n'a pas sa place, si sachez que son chant est fait. On s'y arrête et rentre sans frapper. Les gens qui vivent là ont fini par jeter la clé, ont fini par se dire je t'aime, pour ne surtout pas oublier que si leur ville est un poème, leur maison est un quartier. Mon quartier est un quartier populaire. Ce quartier, dans ma ville, une bulle d'air. Mon quartier.
Et c'est vrai que comme j'ai grandi dans ce quartier de la Levrette, bah ça, c'est, tout était ouvert en fait. Ce qui a changé aussi, et j'en parle dans la chanson aussi, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont changé aussi avec la Levrette. Il y a toujours un esprit qui est resté dans cette ouverture, mais moins, parce qu'en fait ils ont dû fermer les... Ce que nous on adorait faire, en fait c'est vraiment anecdotique, mais on aimait faire en fait des fameuses chasses à l'homme, donc ce fameux jeu de chasse à l'homme. On partait dans tout le quartier et il y avait moyen en fait de passer d'une entrée à une autre, et il y avait rien qui était fermé, et on pouvait même aller dans les sous-sols, et c'était un labyrinthe, et c'était de la folie. Ouais, mais ça c'est une histoire parmi 40 000.
Pourquoi ils ont fermé?
Bah en fait ils ont fermé à cause d'élaborations et des choses qui se sont passées. Enfin il y a eu des problèmes évidemment, mais c'est toujours la même chose. Il y a eu un ou deux problèmes, et puis du coup après bah ça a fait polémique, et puis après on a fermé, et puis on met des codes, et puis il y a des digicodes dans les entrées. Après les gens ont trouvé des moyens de, hein, je veux dire, ils se communiquent les digicodes, mais c'est juste, je veux dire, Ça limite quand même. On n'est plus dans la même ouverture. Avant, on pouvait passer d'une à l'autre. Et nous, on se collait. Enfin, je veux dire, ouais. On était dans notre enfance tous connectés, quoi, interconnectés. Donc, c'est intéressant.
Nadir Mokhtad, ici présent.
L'histoire des portes fermées ne naît pas avec la technologie des codes, des services de sécurité ou des mesures sanitaires de maisons confinées et de visages masqués. Elle a commencé au moment où l'Occident se dit éclairé, avec les lumières de la modernité et la naissance des concepts cadenassés tels qu'individu et propriété. Alors, les paysages se sont fait pays trop sages. La terre hybride et mêlée s'est trouvée quadrillée. Le grondeur d'enfants résistant au coucher ne s'appelle plus papa, mais état. Et la maman s'est travestie en patrie ou en nation.
Se poser comme une identité nationale, pour moi c'est pas ça qui me définit, quoi. Et c'est très drôle parce que quand on me demande, alors en Suisse, je vais dire je suis italienne, et bah oui, parce que je suis italienne, j'ai pas de passeport suisse, je vais pas me faire expulser si je dis je suis suisse, il est où, bah je sais pas. Et quand je vais à l'étranger, je dis que je suis suisse. Alors pas en Italie évidemment, mais je sais pas, et ça vient naturellement. Peut-être parce que ça n'a pas tellement d'importance. Puis je me dis, bon, quelqu'un me demande, oui, bah alors ici je suis italienne, ah bon, oui, là je suis suisse. Non. Et j'adore quand j'accompagne des gens à la naturalisation. Donc j'accompagne pour préparer le questionnaire et tout ça. Et puis je leur dis en général à la fin, je dis, vous réussissez, hein, pour moi. Pourquoi? Parce que moi, je ne l'ai toujours pas. Puis j'ai fait un deal avec le canton. À la centième qui réussit, il me l'offre.
Puis les gens regardent, mais vous n'êtes pas suisse. Mais non, mais vous faites ça. Bah oui, ça ne m'empêche pas de m'intéresser à ces questions qui peuvent être posées, puis d'accompagner quelqu'un, il suffit d'apprendre.
Christiane Piazzeni.
Donc j'ai fait une année sabbatique. Où d'abord, je m'étais dit, ouais, je vais aller apprendre le grec moderne quelques semaines. Je vais prendre les vacances universitaires quelques semaines. Ça sera vite fait, facile, avec la bonne base de grec ancien. Et puis, en fait, bah, du coup, bah, j'ai eu la chance de pouvoir faire une année sabbatique. Et j'ai vu qu'à Thessalonique, ils faisaient des cours de grec pour les étrangers, mais qui veulent aller à l'université. Donc, c'est quand même cours de langue intense. Sauf que j'ai pas été prise, quoi, j'ai pas pu aller parce qu'en tant que Suisse et non européen, ça c'était aussi toute une histoire que pour moi c'était la première fois de ma vie où le passeport suisse il a été un peu un obstacle parce que normalement c'est un peu.
Je pense que ça vient de là clairement parce que en plus de ça voilà la Tunisie c'est un pays que où je suis pas né où j'y retourne tous les étés mais voilà c'est toujours un peu compliqué pour les jeunes qui sont issus de l'immigration, justement, de trouver leur place au sein d'une société, parce qu'en tant que Tunisie, je suis un immigré, autant ici, je suis un immigré, du coup, c'est un peu compliqué. Je pense que c'est aussi ça qui fait la personne que je suis aujourd'hui et qui fait que j'arrive à allier les deux choses, autant mon côté suisse, ma culture suisse et ma culture tunisienne. Autant dans mes écrits que dans mes vibes et dans mes inspirations.
Yeb Elmana, et juste avant, c'était Sophie Mink.
C'est pas que je refuse d'être associée, mais je m'y sentirais pas légitime et pas à ma place. C'est ça. Et pourtant, je n'ai pas le passeport suisse. Donc mon seul passeport, ah ouais, c'est un passeport italien. Donc moi, je cumule totalement, quoi. Mais non. Je suis italienne, mais j'ai vécu ici, j'ai vécu en France. Je rencontre plein de communautés. Moi, je m'éclate autant à une fête portugaise, albanaise ou à danser avec les Grecs qu'avec les Italiens. Mais je pense que j'ai du mal avec la nationalité, je dois dire. Je le dis très souvent, je suis pas du tout nationaliste. J'ai beaucoup de mal avec ça. Donc, puis dans chaque culture, il y a des trucs chouettes à prendre. Donc si je pouvais piocher le bout qui me plaît dans chacune des cultures... La transculturalité, pour moi, serait le but ultime.
Mais c'est bien l'ère des territoires, des nations, des papiers d'identité, des assignations à résidence qui, depuis longtemps, a commencé. Et c'est elle qui semblait gouverner le présent et l'avenir dans le même régime que le passé. On en venait à oublier que les cultures n'étaient pas la même chose que la nature, que la terre paysanne était remplacée par des terrains d'exploitation sur lesquels c'est aux arbres qu'on a demandé de se coucher, tandis qu'on y élevait moins les enfants que les plantations artificielles ou des structures en béton qui interdisent les circulations.
Mais en fait, Nyon est séparée en deux par les voies de chemin de fer. Donc en fait, à Nyon, vous avez sous-gare et sur-gare. Et en fait, à Nyon, ce qui a beaucoup changé ces 20 dernières années, c'est tout le développement sur gare. Mais en fait, sous gare, ça n'a pas beaucoup bougé. Et bah, moi, je suis née sous gare, j'ai toujours vécu au-dessous des voies de chemin de fer, du côté du lac. Et donc, ce Nyon-là, il n'a pas changé du tout. Donc là, je m'y retrouve complètement. Par contre, dans la partie nord de la ville, alors c'est vrai qu'on est plus... Enfin, on est passé d'un grand village à une ville.
Ouais, enfin, disons que ouais, c'est une esplanade en béton immense. À l'époque, c'était un petit peu champ de foire. Il y avait des manifestations, mais c'était plutôt un espace vert. Alors que maintenant, ben, c'est un immense parking à ciel ouvert. Puis il y a un gros projet d'urbanisme. Sur ce parking qui devrait voir le jour dans les années qui viennent.
Mais il s'est passé, d'un point de vue urbanistique, là, il s'est passé un truc incroyable, oui, que je n'avais pas vu. Oui. En fait, il y avait ces bars, années 60, 3, et entre les bars, ils ont construit des nouveaux immeubles. Horrible, d'ailleurs. Affreux. Mais d'un point de vue urbanistique, c'est assez spécial. Hein. Ils sont venus vraiment s'encastrer. Enfin, c'est une époque où les distances entre le bâti étaient beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui. Donc du coup, ça crée du vide, de la place entre des bâtiments, entre des immeubles. Et on les a remplis, parce qu'aujourd'hui, les règlements ont changé, les espaces entre bâtis sont moins grands. Mais c'est impressionnant, ces trucs.
C'est ça, c'est passé une part de vie. En fait, les bâtiments, avant, il y avait des tables de ping-pong,
les enfants. Moi, j'ai joué des années, pendant des années, dans ces places-là. D'ailleurs, je pense que vous avez dû voir le petit terrain de foot qui est à la paix. Nous, c'était nos moments. On a perdu je ne sais pas combien de ballons dans la rivière que vous avez traversée aujourd'hui. Mais c'était des lieux de vie. Il y avait une quarantaine d'enfants. Et une petite anecdote qui est assez parlante, en tout cas pour nous, de notre génération à nous, c'est qu'on voyait que l'herbe entre ces bâtiments dont vous parliez et sur le terrain de foot n'avait pas le temps de repousser d'une saison à l'autre. Parce qu'on était toujours là-dessus, tout le temps.
Ce que je trouve dommage, moi je pense que la Levrade c'était ça, c'est que il y a des gosses, les gamins ils commencent à grandir, il y a des casses, ok, ça s'arrive. Mais on ne va pas fermer un quartier parce que les gamins ne peuvent plus rentrer, ils ne peuvent plus discuter devant là. Parce que devant ta rentrée, tu as un banc où tu viens, tu t'assois, tu parles. Les gamins étaient là, tu venais, tu les voyais, ils discutaient. Ok, des fois c'était jusqu'à tard, mais c'est des gamins, il fallait qu'ils s'amusent. Donc on ferme les portes et puis après on ne sait plus où ils sont. Donc c'est dommage pour ça. Mais...
Les enfants continuaient de résister, mais les grains de sable qu'ils s'échangeaient à même leurs petits poings desserrés étaient devenus tout gris. En Grèce, les forêts brûlaient. En France, les rivières s'asséchaient. Et en Suisse, les sols se trouvaient plombés. Depuis des années, on apprenait à protéger les territoires et à défendre la patrie de l'ennemi. On donnait aux enfants des fusils, on organisait des fêtes populaires pour célébrer le tir en campagne et les balles en plomb se perdaient en forêt en intoxiquant les dessous et les animaux du dessus. L'air s'amenuisait, on avait de plus en plus de mal à respirer, mais on oubliait et on dormait. En paix.
Donc tu es confiant, on sait que tout est très bien préparé, enfin voilà. Et puis après on est descendu dans ce puits, on a marché dans la grotte, on a même éteint toutes les lumières, ressentir l'air, enfin c'était incroyable, on a l'impression de flotter totalement. Je pense qu'il y a, je sais pas s'il y a moins d'oxygène, mais en tout cas il y avait une sensation absolument extraordinaire de flotter, d'être à l'intérieur d'un truc. Non, c'était... Ouais, on sait plus. On perd la notion du temps en quelques secondes.
Jocelyne, franchement.
On n'a plus besoin d'être en rapport avec le temps. On a l'impression de flotter pour être des milliers d'années avant, des milliers d'années dans le futur. On ne sait pas. C'est le trou noir, quoi. Un trou noir agréable. Parce que le trou noir, il peut être angoissant, mais là, il est... Je me suis dit, mais en fait, le trou noir, c'est pas mal.
Et puis, pour rejoindre la gare, par exemple, quand j'ai fini dans cette maison de quartier, puis que je vais reprendre le train, je traverse cette route, et puis je m'enfile dans un petit chemin. Et là, tout de suite, je suis comme délocalisée. Je suis plus dans une ville, je suis plus à Nyon. C'est presque comme une espèce d'image d'Épinal. Parce que ce petit chemin descend avec quelques marches comme ça, et puis là il y a comme une espèce de représentation idéale. On pourrait se croire dans un petit conte de fées, parce que on traverse, il y a un petit pont, on traverse une espèce de minuscule ruisseau qui est cristallin, qui est vraiment adorable, tout ça sous des arbres. C'est extrêmement joli, mais c'est inattendu dans la ville.
Et c'est sûr que je suis touché par ce qui se passe tout autour. Je veux dire, la Suisse, on est un pays. Je veux dire, même encore une nouvelle fois, avec tout ce qui se passe en ce moment, hein, les feux, les trucs, on n'a pas été beaucoup touché, quoi. On a eu un peu des inondations, mais c'est gentil, c'est mimi, quoi. C'est Mickey Mouse, quoi. Non, mais je veux dire, je fais exprès de dire ça. Non, mais c'est mignon dans le sens où c'est Disneyland, quoi. Moi, je trouve que la Suisse, c'est un peu Disneyland. C'est un peu Disneyland, mais ça veut pas dire, je dis pas ça péjorativement, je suis hyper, enfin je veux dire, je suis très reconnaissant de vivre dans ce pays pour ça. Il y a plein d'autres choses qu'on peut parler dans d'autres dimensions où je suis déjà moins ravi, mais je veux dire, on n'a pas tout, on peut pas toujours tout avoir, donc voilà.
Puis soudain, un enfant, un adulte, un aîné, tous se sont mis à tousser. On a réalisé qu'on n'arrivait plus bien à respirer et le temps s'est arrêté, tandis que le monde s'est comme renversé. Ce ne sont plus les paysages qui ont été effacés, mais nos territoires qui ont été interdits d'entrer. Chacune et chacun a dû rester chez soi, fermer ses volets, ne plus circuler, ne plus se rendre de son quartier à celui du voisin, ne plus prendre le train, ne plus passer les frontières dont beaucoup des habitants de ce côté du monde avaient comme oublié l'existence. Tandis que les existantes et les existants de l'autre côté en subissaient la violence depuis des années. Mais cela faisait déjà bien trop longtemps que l'on ne voyait plus, que l'on ne regardait pas, que l'on visait tout droit, que l'on refoulait les fantômes qui ne cessaient d'augmenter, les spectres que l'on ne cessait de fabriquer. On marchait droit, on ne regardait pas derrière soi, on faisait la course au progrès. Et soudain, on s'est comme rappelé.
Passé le pont, les fantômes vinrent à ma rencontre. C'est ce que nous avons fait cette année. Nous avons passé le pont et nous sommes tous encore ici. Mais les fantômes, ils s'en trouvent toujours, ne nous sont pas hostiles. Il n'y a que les hommes de pouvoir et les hommes d'église, les hommes habilités à jeter des ponts pour penser que les fantômes sont des ennemis. Pour nous, qui franchissons ces ponts, et ce faisant, décidons de laisser venir les âmes errantes à notre rencontre, ce sont des présences apaisantes. Ils sont peut-être notre devenir. Ils sont ailleurs. Nous sommes ici. Demain, ce sera l'inverse. Alors, quelle importance ? Chaque jour, des arbres tombent et des ponts sont coupés. Reste la lumière, le vent, les pierres, le sable et les odeurs d'ici. La lumière, le vent, les pierres, le sable et les odeurs d'ailleurs, restent nos vies inquiètes et nos élans joyeux. Nous vivons dans des ruines et avec des fantômes, des matières mortes, des matériaux vivants, des événements violents dont nous ne savons plus s'ils ont eu lieu ou non. Nous ne sommes pas au présent, mais si le présent est un lieu, où sommes-nous alors? Puisqu'il nous est impossible d'être partout comme d'être nulle part, nous sommes là où notre présence fait advenir le monde. Nous sommes pleins d'allants et de simples projets. Nous sommes vivants, nous campons sur les rives et parlons aux fantômes. Et quelque chose dans l'air, les histoires qu'on raconte, nous rend tout à la fois modestes et invincibles. Car notre besoin d'installer quelque part sur la terre ce que l'on a rêvé ne connaît pas de fin. Nous campons sur les rives de Mathieu Riboulet.
On s'est rappelé. On s'est rappelé, on a été rappelé par les présents, par les futurs passés parce qu'avortés, par les futurs qu'on ne veut plus condamner et qu'on peut façonner ici, maintenant. On s'est rappelé les pertes, sans sombrer dans la culpabilité, la nostalgie ou le regret. On a su qu'il n'y avait pas de revenir, mais seulement des devenirs. On a laissé la morale de côté et on a ouvert la sensibilité. On s'est laissé joyeusement hanter, comme le faisait ici, ou en tout cas près de la cour des marchandises, il y a quelques jours, la chorégraphe et danseuse Katerina Andréou, ramenant un peu de Grèce en Suisse et faisant un pont vers Sophie, membre de l'association des Grecs Agnon, ACTI, que nous nous apprêtions à rencontrer. Tout pouvait à nouveau se rencontrer.
Et je suis sollicitée par plusieurs choses. Et surtout par mon intuition d'être hantée par quelque chose que j'ai pas... Déjà, c'est compliqué de comprendre pourquoi cette intuition me travaille. Et sans être triste, je suis cette vague qui est quand même un peu douce comme vague. C'est pas exactement nostalgie, c'est pas tristesse, mais c'est ouf. Il y a beaucoup de choses.
Et c'est vrai qu'il y a plein de choses où je me dis mais c'est injuste, mais je m'arrête pas à l'injustice parce que ça fait pas avancer. Se dire ok, pour moi c'est peut-être injuste, c'est la réalité de ce que vivent ces gens-là, puis au final ils sont souvent plutôt hyper souriants et ils prennent ça plutôt bien. Donc qu'est-ce que je fais pour pouvoir avancer, puis faire quand même quelque chose de cette situation. Les personnes sans autorisation de séjour, pareil. On en a eu plein l'an dernier quand on a organisé la distribution alimentaire. C'est leur réalité. En même temps, on se le prend à la figure parce qu'ils existent, ils sont là, on sait même parfois où ils travaillent. Mais se dire simplement c'est injuste, ok, mais ça les fera pas, ça leur donnera pas un permis B. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Est-ce qu'on peut payer un loyer? Est-ce qu'on peut accompagner les gamins pour une place d'apprentissage?
Comment est-ce qu'on s'en sort? Bien sûr que je compatis, bien sûr que c'est horrible, bien sûr que c'est truc. Mais c'est pour ça que je veux. Ma mission à moi, elle n'est pas de me positionner comme ça. Ma mission, pour moi, c'est d'ouvrir la porte, d'accueillir ces personnes, et puis d'avancer vers une aide, quoi, une conversion, j'en sais rien. Quoi. Mais je pense que. Il y a des choses qui se font super maintenant. Justement, ça donne l'idée. J'ai mon papier, je prends un jeune, je fais ça. Allez-y, mais allez-y. Allez-y, quoi. Il faut y aller. Moi, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Je fais rien. Je fais que d'ouvrir la porte. C'est tout. Et ça, c'est important de comprendre ça.
On a passé la porte qui avait été cadenassée bien avant l'obligation du confinement et on s'est remémoré. On a refait mémoire au présent en ne cherchant pas à retourner, à regagner nos territoires et les espaces qui ne sont plus publics mais policés. On a plutôt rouvert des gestes recouverts mais jamais oubliés. Des actes qui donnent du poids au corps et aux histoires. Des histoires qui comptent, surtout et avant tout, parce qu'elles font place à toutes celles et tous ceux qui, dans les grandes histoires nationales, ne comptent pas.
Et c'est là où j'avais déjà ça pas très bien formulé dans ma tête, qu'il y a quand même une mythologie autour de certaines choses avec laquelle à laquelle j'accroche beaucoup. Et c'est pas vraiment. C'est bizarre de faire la distinction entre l'histoire, les événements historiques et les mythes, mais il y a quand même quelque chose qui crée une histoire. Une autre histoire aussi. L'histoire passe par les mythes et ça crée aussi un autre mémoire un peu collectif.
J'essaie de m'accrocher à ton faisceau de propositions par rapport aux noms humains et aux objets, qui m'a directement rattaché à la rivière de Lasse. Je pense que pour les Nyonnais et Nyonnaises, vous voyez, vous connaissez peut-être, je sais pas, la rivière de Lasse. J'habite juste à côté. Et en rentrant de Sicile, j'y reviens il y a quelques jours, j'y suis retourné depuis un an, suite au confinement, j'y suis retourné. Et il y avait une chose qui m'avait manqué, et de manière inconsciente, j'ai aperçu qu'elle m'avait manqué en retournant à Nyon. C'était cette petite rivière qui est à côté de chez moi, qui ramène quand même une certaine fraîcheur. Donc quand on transite sur la route qui est traversée par la rivière, on sent qu'il y a 3-4 degrés en moins qui est amené par cette rivière. Et la nuit, c'est hyper agréable parce que je sais pas comment on dit, mais il y a le chant des grenouilles souvent qui est présent à un certain moment de l'année. Et ça, d'une manière ou d'une autre, d'un point de vue personnel, ça me transmet un sentiment de sérénité. Et en certaines nuits, parce que moi, je suis un insomniaque. Du coup, à certains moments durant la nuit, quand j'entends le chant des grenouilles, j'ai l'impression d'être accompagné. Et puis, ça m'active des imaginaires. Et c'est une manière à moi d'avoir un rapport avec ce petit contexte-là qui fait partie de nous.
Je suis passé souvent au centre de la ville. Et puis, beaucoup, c'était des visages qui étaient plus vraiment familiers. Mais je sais pas, j'ai trouvé qu'il y a eu une sorte de rapports différents avec les gens qu'on se croisait, en tout cas pendant cette période. Je sais pas vous comment vous l'avez expérimenté, mais personnellement j'ai trouvé que tout d'un coup il y avait une curiosité envers tout en chacun qui était beaucoup plus forte. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que sinon il y a un peu cette figure bah, de la ville où on avance et puis on, même qu'on connaît, on connaît tout et en même temps on se connaît pas trop, on est un peu enfin voilà, on navigue, on se protège dans ces villes et puis bah, j'ai trouvé ces derniers temps bah, en allant en dehors et bah, on se regarde tous dans les yeux, il y a une sorte de il y a quelque chose un peu comme ça qui est assez fort je trouve.
La roulotte.
Moi c'est le lieu que depuis que je suis à Nyon, c'est le lieu que je préfère, la roulotte. Enfin, vraiment très spontanément dans les circulations que j'ai pu faire. C'est le lieu que je vais habiter, que j'habite le plus le temps où je suis là, où j'ai du temps, où le matin je peux réfléchir à la session de 10 heures là-bas. Enfin, c'est un peu c'est un lieu que j'ai trouvé, quoi, en tout cas dans cette ville que je connaissais pas. Et je regardais ça hier, ce qui me plaît, c'est la proximité avec la gare. Je trouve ça incroyable, ce lieu, petite roulotte avec. Ces cafés suspendus qu'ils proposent, ces ardoises, enfin un lieu très qu'on pourrait voir dans des lieux ou des campagnes un peu qui réfléchissent à comment habiter, des lieux un peu alternatifs où tu vois à Montreuil, moi qui vais à Montreuil en Île-de-France, ça pourrait être des lieux très communs. Et je trouve que là, avec la proximité avec la gare, avec ce train qui va à Genève, je trouve que ça fait un petit îlot. C'est parce que c'est dans un paysage très urbain. C'est pas du tout excentré, je sais pas, il y a un truc de frottement que je trouve hyper chouette.
Et il y aura un café et une épicerie l'un à côté de l'autre. Le café sera ouvert à tout le monde, vraiment, qui a envie. Et puis l'épicerie sera plutôt destinée aux personnes en situation de précarité, avec pour but que les personnes se rencontrent entre les deux endroits. Surtout de la littérature jeunesse dans le café.
C'est quoi mon mythe? C'est quoi la mythologie à laquelle je m'accroche plus?
La vieille histoire de la modernité s'est suspendue un temps et a laissé la place à d'autres narrations qui avancent à reculons. Avancer en renversant, c'est ce qu'on nomme une conversation. Depuis le mois d'avril 2020, nous, le collectif Compost, avons entamé des conversations avec des habitantes et habitants de Nyon, en nous intéressant tout particulièrement aux gestes non pas barrières, mais manquants. Étonnamment, ces gestes, mes feuilles sont collées. Ces gestes de la relation sont moins ceux qui ont disparu que ceux qui sont réapparus au moment où disparaissaient les lieux dédiés et réservés. On s'est non seulement mis à voir et considérer les soignants, mais on est tous redevenus, à des échelles différentes bien sûr, des actrices et des acteurs du soin que l'on peut donner à son voisin.
Et moi, les 25 dernières années de ma vie professionnelle, j'étais veilleuse. Donc, c'était mon métier. Oui, je suis de profession, je suis infirmière assistante. Et puis, les 25 dernières années de ma vie, le hasard a fait que... Enfin, le hasard. Et donc, dans les hôpitaux, comme partout, je pouvais de moins en moins faire mon métier comme je le désirais. Et puis, j'ai trouvé une place de veilleuse, d'abord une première fois où j'ai travaillé 15 ans. C'est bousculé le début de nuit, fin de nuit, mais au milieu de la nuit, quand quelqu'un a besoin de vous, ben vous avez le temps. Donc, je pouvais faire mon métier encore comme je l'envisageais.
J'ai pas arrêté de travailler pendant le confinement parce que je fais les soins à domicile, je rends visite aux personnes âgées à leur domicile. En principe, moi, j'étais la seule personne qui voyait dans la journée parce que, évidemment, c'est les personnes âgées, donc c'était les personnes plus à risque. Il y avait personne d'autre qui venait les voir. Il n'y avait pas de visite de la famille. Il n'y avait pas des voisins qui venaient voir si tout allait bien comme avant. Donc, moi, j'étais accueillie presque comme... je ne sais pas comment expliquer, mais c'était vraiment... Ils me voyaient venir, c'était... Pour eux, c'était presque la fête, parce que j'ai pu aller visiter ces personnes, et c'était le seul contact qu'ils avaient de la journée. C'était pour eux, j'étais leur fenêtre à l'extérieur, en fait.
Nyon, c'est une toute petite ville, hein. C'est pas loin d'être un gros village. Donc, vous rencontrez très vite les gens qui s'engagent au niveau bénévole, au niveau de soucis de l'autre. Vous les retrouvez un peu dans toutes les actions. Donc, voilà. Et là, c'est des jeunes femmes qui sont mises et puis qui récoltent la nourriture et des produits de nettoyage et qui font de la distribution.
Vous venez d'entendre Myriam Hofer, Kirsty Herb, ici présente, et Isabelle Amiguelou.
Dans ces gestes-là, en effet, quantité de paysages qu'on a oubliés et dont la vitalité continue de nous hanter, on refait surface sans que rien ne nous soit donné par État Papa ou Maman Nation pour les faire durer. Les personnes avec qui nous avons conversé rêvaient moins de retrouver les territoires perdus qu'ils ne se faisaient créateurs de gestes, donnant du soin et du soutien pour que nos espaces communs résistent au nouveau retour à la normale imposé et qui, on le sait, ne serait qu'une obligation à se coucher à l'intolérable normalité. L'air de rien, peut-être sans le savoir ou en le sachant très bien, non pas par le savoir imposant de l'expertise mais par la saveur sachante des expériences, des personnes comme Chloé, Gaëlle, Diane, Christiane, Myriam, Kirsty, Michel, Manuel, Swan, Yeb et tous les autres que nous avons eu la chance d'écouter ou de rencontrer depuis, comme Héloïse, Monsieur Grillon, Louise ou Sophie, tous et toutes nous ont rappelé par anticipation ce dont nous faisons tous actuellement le triste constat. La puissance par laquelle nos paysages survivent aux territoires fabriqués, supposés bien gérés, présentés comme devant être protégés, bien gardés, bien fermés, au point d'exploser. Nos territoires, tels que l'Occident et la modernité les ont définis et délimités, ne pouvaient qu'imploser. À présent, tout semble se mettre à brûler, déborder, inonder ou trembler. Κάθε οικογένεια στη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει ένα νόμιμο τέκνο ανεξαρτήτου.
En ce mois d'août 2021, au cœur du festival Commun Singulier, au moment où nous parlons dans ce « nous » que notre collectif incarne entre la France, la Suisse aujourd'hui et la Grèce depuis longtemps, cette dernière, comme la Turquie juste avant, voit ses forêts brûler. Les gestionnaires responsables ne refusant la responsabilité des accidents actuels déplacent la culpabilité sur le ciel, qui, une nouvelle fois, comme dans une nouvelle trop vieille tragédie, nous serait tombé sur la tête et aurait tout condamné. C'est, disent-ils, une fois encore et encore une fois, la catastrophe. C'est la catastrophée. Fin du chant. La fin de la parole et surtout le retour de ce vieux récit de la fin des récits. Celui-ci voudrait prendre toute la place, se mettre au centre de nos attentions, mais grâce à chacune et chacun de vous, nous nous sommes déjà déplacés et avons depuis des mois appris à regarder autrement, à faire attention différemment, à faire attention différemment aux suspensions, aux distances, reprise non en obligation mais en possible recomposition de relations. Nous avons moins visé le centre que suivi les récits en périphérie, nous décentrant toujours plus d'une conversante à un conversant et par diagonale et strabisme volontaire qui muscle nos visions, nous percevons non pas des fins mais quantité de débuts.
Nous voyons et avons revu la naissance de la Solidrie à Nyon, l'émergence des entraides, la reprise des cours de français qui, dans ce même jardin du conservatoire où à présent nous nous tenons, a réuni durant tout le mois de juillet quantité de nationalités et de types de subjectivités que tout devait opposer. Nous voyons les solidarités d'ici et de là-bas et nous reprenons les paroles qui comptent et comptent notamment les actes des Grecs qui, bien qu'ayant perdu leur propre maison, n'ont pas déserté le terrain commun pour autant. Comme dans les mains des enfants, il y a là de la résistance aux obligations de tout fermer, de tout abandonner, de tout coucher. Il y a de la résistance au repli individualiste, au renfermement dans le chez-soi. Il y a de la puissance d'attention et de souci de commun. Sans discours, sans armes, sans plomb, les corps tiennent bien d'aplomb, les actes reprennent du poids et densifient la trame alternative des nouveaux mythes et récits dont le monde a besoin pour faire taire la langue morte qui, en avivant les feux, tarit les rivières et les imaginaires.
6 août 2018, communiqué de Greenpeace Greece à l'intention de Kyriakos Mitsotakis, Premier ministre grec alors.
6 août 2021,
c'est étonnant. Et d'Alexis Tsipras. Donc Alexis Tsipras, ancien Premier ministre, porte-parole de Syriza, le premier parti d'opposition. L'intitulé de ce document est « Il est temps de vous taire ». Nous avons suivi l'allocution du Premier ministre et sommes restés bouche bée. Il se conclut en laissant planer un « bonne nuit et bonne chance » nébuleux et se réfère à la crise climatique comme à quelque chose dont nous devrions, sans autre précision, sauver notre pays. Peu après, un tweet du chef de l'opposition nous a informé que la crise climatique avait débuté il y a 3 ans et pris de court le gouvernement actuel qui ne s'y est pas préparé. Messieurs, fermez-la. La crise climatique n'a pas commencé hier ou il y a 3 ans. Taisez-vous. Sous vos gouvernements, en quelques années seulement, et alors que le danger était déjà patent, nous avons été témoins de désastres liés à la crise climatique et à la destruction de la biodiversité. Par où commencer ? Par la loi anti-environnementale de Kostis Hatzidakis, ministre du Travail et des Affaires Sociales, vice-président du parti au pouvoir. Commencer par cette loi adoptée en pleine pandémie, malgré les réactions massives des citoyens grecs. Faut-il commencer en rappelant les batailles juridiques constantes et les recours auprès du Conseil d'État qu'associations et citoyens sont obligés de porter, encore et encore, afin de sauver ce qui peut encore l'être ? Ou alors, en évoquant les scientifiques que vous n'écoutez pas ? Ou peut-être en parlant de l'absence d'une véritable politique de protection des forêts et d'anticipation des risques de la part de tous les gouvernements qui se sont succédés ? Ne faudrait-il pas mentionner aussi les contrats d'extraction de pétrole et de gaz attribués par le gouvernement précédent ? Sérieusement, avez-vous la moindre idée de ce qui cause cette crise climatique que vous invoquez aujourd'hui, comme s'il s'agissait d'une malédiction inattendue ? Fermez-la. Peu nous importe de savoir lequel d'entre vous est le pire. Vous êtes bien trop médiocre et la situation bien trop grave. Ne reparlez de la crise climatique que si vous avez quelque chose d'utile à en dire. En annulant par exemple tous les permis d'exploitation de combustibles fossiles en Grèce. En encourageant sérieusement les économies d'énergie dans le secteur du bâtiment et la sortie des combustibles fossiles, y compris du gaz. En investissant sans retard et de manière systématique dans la protection contre les incendies et le renforcement de cette prévention. Non, vous n'avez pris aucune de ces mesures pourtant cruciales. Fermez-la. Non, lorsque les incendies seront éteints, nous n'oublierons pas. Tout comme nous n'avons pas oublié que, depuis des décennies, des scientifiques, des organisations environnementales et des citoyens tentent désespérément de vous faire prendre conscience du danger. Non, nous n'oublierons pas car, après les incendies, viendront les inondations. Et vous continuerez à parler de la crise climatique comme si le ciel vous était tombé sur la tête. Alors, fermez-la et faites enfin votre travail.
Pendant que des uns parlaient sans rien faire, d'autres faisaient tout, sans s'en vanter, mais en chuchotant les petites victoires gagnées. Nous avons écouté, d'abord de loin, puis on s'est rapprochés. On a rejoint moins un territoire que, depuis une semaine que nous sommes là, nous n'avons toujours pas vraiment visité, mais plutôt, on a rejoint une durée donnée aux actes, aux aspirations, aux improbables associations qui relient Nyon à la presqu'île de Bé, qui relie un collectif afro-féministe nommé ici Amani à une grande grève féministe qui débute là-bas, à Genève, mais ramène du même coup toute une Amérique latine qui se bat sur ces sujets depuis longtemps, notamment au Chili, dont une de nos invitées, Pauline Julier, pourra bientôt aussi nous parler, non pas en changeant de sujet, mais en poursuivant les imaginaires des déplacements, sans en oublier tout ce que cela peut comporter aussi d'exploitation, d'extractivisme et de colonisation. Durant toutes ces conversations, nous avons veillé à ne pas capturer la parole des gens, mais à toujours la leur rendre et à la remettre en circulation. C'est pourquoi cette émission n'est pas un spectacle. Pas un spectacle fait pour, mais toujours sans elles et eux. C'est du début à la fin, une collaboration. Et tout va se poursuivre, à présent, dans la forme d'une conversation en 2 ou 3 temps. Donc on a réuni ici les personnes qui nous ont appris ce qu'ils faisaient l'ici et qui rêvent moins de partir ou de revenir que de rester et de faire durer tout ce qui s'est mis à compter ou s'est rappelé comme comptant vraiment. La plupart de nos conversants sont d'ici, sachant que cet ici est plein de là-bas, de Portugal, même si Manuel n'est pas là avec nous, malheureusement, de Grèce réelle ou rêvée, de Tunisie, d'Italie. Et c'est dans l'antre de ces actions associées que nous allons démarrer, reprendre un début commencé depuis longtemps, pour le premier temps de conversation que l'on pourrait nommer, pour faire un clin d'œil à nos accueillants du phare, faire commun avec les singularités. Puisque c'est ici, dans ce jardin, que nous démarrons, c'est à Christiane Piadini que nous voudrions donner la parole en premier pour qu'elle nous raconte le déroulement de ses cours de français et les rencontres improbables que tu as pu y voir, Christiane. Mais juste avant de commencer, on voulait entendre un peu les artisanes et artisans sans lesquels, pour nos compagnons plus distants, mais aussi pour chacun d'entre nous, il n'y aurait ni début ni suite d'émission. Ces artisans invisibles mais visibles pour nous, ce sont les partenaires de Radio, que nous ne prenons pas comme de simples exécutants qu'on ne voit pas, mais comme des collaborateurs précieux, et on les remercie encore une fois. Des collaborateurs de ce moment, certes, mais aussi de l'avant, puisque l'une des membres de Radio a été l'une de nos conversantes, depuis longtemps, même une des toutes premières, et elle nous a notamment introduit à cette fameuse roulotte dont vous avez entendu parler dans toute cette introduction. Elle nous a aussi parlé de la célèbre usine à gaz, on nous a aussi beaucoup parlé Michel, elle nous a parlé de la cave de la parenthèse, mais elle nous a aussi permis de rencontrer des lieux et des visages moins connus comme celui d'Ifraïm qu'on entendait au début, qui n'est pas qu'un visage derrière un comptoir, qui lui aussi a des histoires de Cappadoce qu'il raconte avec le même amour qu'il a pour Nyon. Et cette introductrice exemplaire, c'est Chloé, que certains ont déjà entendu à l'ouverture du festival, mais qu'on voulait inviter maintenant à parler sous une autre casquette, celle associative qu'elle chérit particulièrement à Nyon. Et donc Chloé ainsi que Marlo, qui est à côté d'elle, tous les deux, peut-être vous pouvez nous parler un petit peu de ce qu'est cette radio et comment elle est née et qu'est-ce qu'elle raconte aussi dans sa dimension de radio associative, de cet esprit collaboratif qui est un peu le cœur battant d'Union qu'on a découvert.
Merci beaucoup Camille. Je vais faire une brève introduction et Marlo me complétera. Cette radio, elle a été mise en ligne de manière un peu improbable, effectivement, pendant le semi-confinement qu'on a vécu l'année dernière. Mais c'est un projet qu'on avait pensé bien avant le Covid, avec deux autres personnes qui sont malheureusement pas là ce soir. Et c'est un peu comme le phare, en fait. Avec des singuliers, on voulait faire des communs ou avec des communs du singulier. Avec le constat, surtout qu'à Nyon, on avait plusieurs médias, on avait de la presse, on avait une télévision locale, mais on n'avait pas de radio. Et on a sauté sur cette occasion, mais surtout avec une très forte envie de faire de l'associatif une fois de plus, mais surtout de créer du lien. C'est un peu notre moteur toujours dans cette ville, je crois, de créer du lien entre les associations, de créer du lien entre les collectifs. Et toutes les personnes qui font aujourd'hui partie de la radio, donc qui est une radio web indépendante, on a tous et toutes de grands réseaux dans l'associatif. Et le but, c'était de... Alors, on était très ambitieux à la base de créer une radio avec des émissions toutes les semaines. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la radio, elle fonctionne plus sur projet et sur appel. Parce qu'on s'est rendu compte que c'était beaucoup de temps et beaucoup d'investissement. Et Marlo, qui est un chroniqueur renommé de la radio, je te passe la parole pour que tu complètes.
Merci. Moi, je voulais parler pour nous la fonction de la radio qu'on voulait. Ce que je trouve cool dans cette radio et ce qu'on voulait faire, c'était ce qui est très en lien avec Nyon, justement, comme tu le disais, de créer du lien avec tout le monde, c'était de créer une grande table où on pourrait parler, présenter des choses. Et puis c'est quelque chose que moi, je vois beaucoup dans Nyon. C'est qu'il y a beaucoup d'entraide et d'écoute dans ce qui est les projets, ce qui est d'amener quelque chose, ce qui est de se filer des tuyaux. Et puis, cette radio, à mon sens, je le vois comme une grande table où j'allais dire un grand lit, mais ça aurait été bizarre comme image, mais où on peut venir s'asseoir et puis présenter ce qu'on a à présenter. Et puis, en fait, c'est une sorte de médium qui est à l'écoute de chaque habitant de Nyon et plus, quoi.
Bah merci beaucoup. On peut après rebondir et en apprendre plus. Et on excuse d'avance les gens qui partent parce qu'il y avait d'autres spectacles et qui nous avaient prévenus.